réveil, bienvenue si vous nous rejoignez à l'écoute de Radio France Internationale, 6h à Paris. Et c'est le journal international. Bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Vincent Dublange et bonjour à tous. À la une de ce journal, la journée mondiale des océans. Aujourd'hui, à la veille du début demain de la conférence des Nations Unies sur l'océan. Ce sera à Nice. RFI vous fait vivre cet événement. C'était il y a 6 mois, jour pour jour, en Syrie, la chute et la fuite de Bachar al-Assad. La fin de 55 ans de dictature de la famille Assad. On en parle. On parle ce matin de la difficile relance de l'économie syrienne. Une gay pride de combat à Washington hier aux États-Unis, alors que Donald Trump multiplie les attaques contre la communauté LGBTQIA+. En Tunisie, la société civile s'inquiète du blocage des comptes de plusieurs associations. Et puis la reine de la terre battue parisienne s'appelle Coco Gauff. L'américaine d'à peine 21 ans a été sacrée hier à Roland-Garros. Place cet après-midi à la finale homme entre Yannick Sinner et à Carlos Alcaraz. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement attendus aujourd'hui à Nice, dans le sud de la France, où débutera demain la conférence de l'ONU sur les océans. Troisième rendez-vous du genre, rendez-vous qu'Emmanuel Macron entend transformer en sommet de mobilisation. Hier, le président français a annoncé à la presse régionale une limitation du chalutage de fond dans certaines aires marines protégées. C'est dans ce contexte qu'est publié aujourd'hui le tout premier baromètre Starfish, un baromètre qui présente un état des lieux de l'océan en plusieurs indicateurs clés, un article scientifique, oui, mais pensé pour toucher le plus grand nombre. Paul Inglès.
Starfish, c'est une étoile de mer en anglais. Le symbole de ce baromètre n'a pas été choisi au hasard, explique Pierre Bahurel, directeur de Mercator Océan.
Une étoile de mer à 5 branches. On explique que pour aborder ce sujet océan, on ne peut pas se contenter d'une seule branche. C'est-à-dire qu'on va vous décrire l'état de l'océan, branche numéro 1, mais on va regarder les pressions de l'homme sur l'océan, branche numéro 2, et les conséquences néfastes que cela peut créer, branche numéro 3. On va regarder également les actions positives de protection et les opportunités que cela peut créer, branche numéro 5.
C'est un bilan de santé de l'océan et il n'est pas en grande forme. Plus de 1600 espèces marines risquent de disparaître. Depuis 1900, les eaux ont monté de 23 cm et les pressions augmentent, toujours plus d'émissions de CO2 et la pêche non durable concerne près de 38% des captures. Côté opportunité, les ventes de produits pharmaceutiques d'origine marine ont augmenté de 7,5% en 5 ans. Car Starfish n'est pas qu'un baromètre environnemental.
La méthode, ça a été de rassembler des scientifiques de différentes spécialités, des économistes, des spécialistes de la physique de l'océan, de la biologie. Et l'angle, vraiment, ça a été de regarder les relations entre l'homme et l'océan, ou l'humanité et l'océan.
Le nombre de migrants morts en mer a aussi été comptabilisé, 9002 l'an dernier. Un record en 10 ans. Pauline Glaise, Nice, RFI.
Et ce baromètre sera présenté aujourd'hui à 17h aux chefs d'État et de gouvernement réunis à Nice. À noter que demain, la matinale d'RFI pose ses valises à Nice avec Anne Cantner. Vous retrouvez articles et reportages sur l'état de nos océans d'ores et déjà sur notre site RFI.fr. En Colombie, à présent, un candidat à la présidentielle de l'an prochain, grièvement blessé par balle ces dernières heures, le sénateur conservateur Miguel Uribe, blessé à la tête alors qu'il tenait un meeting dans l'ouest de la capitale. Le tireur a été interpellé. Le gouvernement du président de gauche, Gustavo Petro, qualifie l'événement d'attentat. Les États-Unis ont déclaré par la voix du secrétaire d'État américain Marco Rubio que la responsabilité de venait de la violente rhétorique de gauche émanant des plus hauts niveaux du gouvernement colombien. Les États-Unis, où la Maison-Blanche annonce le déploiement de 2000 membres de la garde nationale en Californie après des heurts à Los Angeles lors de manifestations contre les arrestations massives d'immigrés illégaux dans l'État démocrate. Donald Trump rejette la responsabilité de la situation sur les dirigeants démocrates californiens qu'il qualifie d'incapables. C'était le 8 décembre dernier, il y a 6 mois, jour pour jour, Bachar al-Assad fuyait la Syrie pour se réfugier en Russie. La fin de 55 ans de dictature incarnée plutôt par son père Hafez al-Assad. 6 mois après la chute du régime, le nouvel homme fort du pays, Ahmad al-Shara, a contribué à sortir la Syrie de son isolement à l'international, mais ses défis restent très nombreux, édifier un État, protéger les minorités, mais aussi, Nicolas Feldman, relancer l'économie ravagée par 14 ans de guerre.
C'est l'une des grandes victoires des nouvelles autorités. La levée des sanctions américaines et européennes a déjà permis de financer de nouveaux projets indispensables pour lancer la reconstruction. L'universitaire Joseph Daher, spécialiste de l'économie syrienne.
Cela permet, on a pu le voir, la signature de contrats avec des compagnies étrangères, notamment pour la gestion de ports ou bien pour la construction d'infrastructures électriques. Donc cela est une réussite très importante de rompre cet isolement après des années de sanctions internationales.
La vie sans Bachar al-Assad se traduit aussi dans les rues syriennes par le retour de produits de marques étrangères, des cigarettes aux biscuits, des produits que les Syriens peuvent désormais payer en dollars, à condition, rappelle l'universitaire, qu'ils en aient les moyens.
La grande majorité des Syriens et Syriennes sont dépendants toujours des envois de fonds de l'étranger, de la diaspora syrienne, des réfugiés syriens. La pauvreté ne peut pas être diminuée si vous avez des mesures d'austérité. Aujourd'hui, la politique économique des nouvelles autorités aggrave les conditions de vie des Syriens et des Syriennes et de facto augmente la pauvreté.
Selon l'ONU, 90% des Syriens vivent encore sous le seuil de pauvreté.
Nicolas Feldman, des centaines de milliers de personnes réunies hier dans les rues de Rome en Italie pour protester contre la guerre à Gaza, rassemblement organisé par l'opposition au gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni, accusé de complicité. 300 000 personnes étaient réunies selon les organisateurs, une estimation largement confirmée par la police selon l'agence de presse italienne AGI. Une marche des fiertés exceptionnelle hier à Washington, la capitale américaine a accueilli la World Pride, événement mondial pour célébrer les personnes LGBTQIA+. Et hier, la marche des fiertés avait un goût un peu particulier avec le retour de Donald Trump à la présidence, qui a multiplié ces derniers mois les attaques contre la communauté LGBT. Correspondance aux États-Unis, Edouard Maille.
Le mois de juin, à peine démarré, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a ordonné à l'armée de renommer le navire Harvey Milk. Harvey Milk était un vétéran de l'armée et premier élu ouvertement homosexuel en Californie, une mesure plus que symbolique alors que démarrait le mois des fiertés. D'autres mesures prises par le gouvernement ces derniers mois visent à éliminer les programmes pour inclure les personnes LGBTQ+, programmes privés ou publics dits de DEI, diversité, équité et inclusion. Mais la plus grande partie des politiques vise les personnes transgenres. Le gouvernement ne reconnaît désormais que deux sexes, masculin et féminin, des interdictions mises en place pour devenir militaire. Le gouvernement a également coupé les financements des hôpitaux qui permettaient aux personnes de moins de 19 ans de recevoir des chirurgies de réaffirmation de genre ou des traitements hormonaux. Des politiques qui ont eu un effet sur la World Pride à Washington, avec une plus faible participation que prévu. Certaines organisations internationales se sont dissociées de l'événement, soit par boycott contre Donald Trump ou en déconseillant à certaines personnes LGBTQ+, de se rendre aux États-Unis. Édouard Maille, Atlanta, RFI.
En Tunisie, à présent, l'association de défense des droits des LGBTQIA+, Maoudjoudine, a annoncé devoir fermer ses locaux, faute de pouvoir payer son loyer à cause du blocage de son compte bancaire. La société civile tunisienne qui s'inquiète du blocage des comptes de plusieurs associations. Certaines ont même vu leurs comptes gelés sur fond d'enquête de blanchiment d'argent. Écoutez ce chargé de projet à Avocats sans frontières. Il a souhaité rester anonyme. Pour lui, c'est une manière de mettre au pas ou même de dissoudre implicitement le tissu associatif qui s'est créé après la révolution tunisienne. Écoutez.
D'abord, on vise les associations qui opèrent dans le domaine de la démocratie, de l'état de droit, du respect des droits de l'homme. Donc, ceux-là sont les ennemis numéro un. Les plus faciles à abattre ont été celles qui opèrent autour du sujet de la migration. Il y a une opinion publique qui a été travaillée de la part des autorités pour présenter la question de la migration comme un complot visant à changer la composition démographique du pays, qui a donné suite à une vague raciste dans le pays. Et donc ces organisations aujourd'hui ont été pointées du doigt et ont été accusées de tous les maux. On voit aujourd'hui le même mode opératoire s'opérer autour des associations qui œuvrent pour la cause des droits des personnes LGBT. Donc je pense qu'il y a un ordre de priorité qui correspond au discours officiel et qui reflète également les inquiétudes amplifiées, je dirais, par le populisme ambiant.
Un témoignage recueilli par RFI de ce chargé de projet à Avocats sans frontières. au Canada, entre une chaleur historique, une sécheresse extrême et des vents violents, le cocktail explosif alimente toujours des incendies gigantesques. Plus de 30 000 personnes ont dû être évacuées pour fuir les flammes. Des millions d'hectares de forêts sont déjà partis en fumée de l'ouest canadien aux confins de l'Ontario. Malgré quelques gouttes de pluie tombées ce week-end, la situation reste critique. Nafia Liber.
Ce son, il sonne comme un miracle. Il pleut enfin, se réjouit ce résident du nord de la Saskatchewan, à l'ouest du Canada, un cri du cœur qu'il a partagé sur les réseaux sociaux. Car il y a à peine une semaine, il filmait un tout autre spectacle, des nuages épais de fumée qui s'étendaient à l'horizon. Ailleurs, ils n'ont pas disparu, loin de là. 24 feux sont encore actifs dans la province, confirme Marlo Pritchard de l'Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan. Près de 400 bâtiments ont été déjà engloutis, ajoute-t-il. Le bilan reste provisoire, les zones sinistrées sont encore inaccessibles. Attisés par les vents, plusieurs feux fusionnent, formant des méga-brasiers incontrôlables. Le plus vaste est actif depuis un mois. Il a déjà ravagé près d'un demi-million d'hectares. Ce monstre de flammes menace désormais plusieurs communautés prêtes à évacuer. Dans la province voisine du Manitoba, la situation est tout aussi critique. Ces incendies touchent aujourd'hui une large partie du Canada, de la Colombie-Britannique à l'Ontario. Leurs effets, eux, se font sentir à des milliers de kilomètres. Ce week-end, Toronto et Montréal figuraient parmi les villes les plus polluées du monde, étouffées par une brume toxique venue tout droit de ces incendies. Nafia Liber, Montréal, RFI.
RFI, 6h passées de 11 minutes. On va parler à présent d'un scandale en Bulgarie. 5 Bulgares arrêtés dans une affaire de maltraitance de personnes âgées, battues, ligotées, droguées. Les conditions de vie dans les centres d'hébergement ont choqué les équipes de secours. Ce n'est pas la première fois que le pays est confronté à la violence dans des institutions sociales. À Sofia, les précisions de Damian Vodernicharov.
75 personnes étaient victimes de maltraitance et de violence dans deux centres près de la ville de Stara Zagora, située à 200 km à l'est de la capitale Sofia. Mal nourris, drogués, enfermés à clé dans des conditions lamentables, les équipes de secours se sont dites choquées par la découverte. L'opération de la police fait partie d'une campagne contre la mafia de l'immobilier lancée par le Premier ministre Rossenji Laskov en mai. Des personnes âgées qui disposent de biens immobiliers sont enfermées pour qu'elles cèdent le contrôle de leur propriété. Le contrôle et la qualité des services sociaux sont également remis en question, d'autant plus que c'est loin d'être le premier cas où des seniors sont victimes de violences au sein d'institutions spécialisées. Le nombre d'établissements d'hébergement public est bien loin de répondre à la demande, avec de longues listes d'attente. Cela pousse les familles des seniors à chercher des centres privés où le contrôle est faible, voire inexistant. Damien Vodenicharov, Sofia, RFI.
Enfin, Roland Garros, elle tient son grand titre sur terre battue. L'américaine Coco Gauff s'est imposée hier face à Aryna Sabalenka, la numéro 1 mondiale, pour s'offrir donc à 21 ans son premier sacre à Paris à l'issue d'une finale de haut vol. Place cet après-midi à la finale homme. Yannick Sinner, l'Italien, affronte l'Espagnol Carlos Alcaraz. 23 et 22 ans, ils ne se sont jamais affrontés jusque-là en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Écoutez Yannick Sinner.
It's fun and not fun, you know.
C'est marrant et pas marrant, vous savez. C'est un peu les deux en fait. Mais je pense que l'on essaie de se pousser mutuellement du mieux possible et je crois que quand il y a un bon match, c'est aussi agréable à jouer. Ce n'est pas seulement bien à regarder, c'est aussi très spécial à jouer. Et là, l'enjeu, il ne peut pas être plus grand. Une finale de grand chelem contre Carlos, c'est un moment particulier pour moi. Et pour lui aussi. Il a gagné ici l'an dernier, donc on va voir ce qui va se passer. Mais bon, c'est sûr que la tension que l'on ressent avant le match, et même pendant, elle est un peu différente, parce qu'on est encore tous les deux jeunes, on est différents, talentueux, donc voyons voir.
You know, we are both very young, we are both different, talented, you know, so let's see.
Et Yannick Sinner au micro d'Éric Mamrud, premiers échanges vers 13h15, temps universel.
RFI, toute l'actualité.
Jeanne Bartoli.
Et 20 minutes d'infos à suivre sur la radio du monde. On va parler du vieillissement de la population carcérale en Allemagne qui pousse les autorités à inventer un nouveau modèle. La guerre des drones qui s'intensifie en Ukraine, ce sera la chronique défense avec Franck Alexandre. L'acidification des océans, question de survie pour les espèces marines. Florent Guignard nous en parle. Et puis votre chronique dédiée à l'expatriation comme tous les dimanches, ce sera Vivre ailleurs avec Corinne Mandjou. C'est un reflet, somme toute, logique de l'évolution démographique du pays. En Allemagne, la population carcérale ne cesse de vieillir. Alors, quelle prison, justement, pour cette population à la santé fragile? Nathalie Versieux, notre correspondante, s'est rendue dans une prison de Rhénanie, à l'ouest du pays, où se trouve la plus grande unité de prisonniers seniors d'Allemagne. Reportage.
Difficile de penser à une prison quand on franchit la porte de l'établissement pénitentiaire de Zenne à 200 km à l'est de Cologne. Ici, ni barreau, ni parloir, le hall donne directement sur le parc. Trois prisonniers vêtus d'un t-shirt rouge passent la serpillière. Tous les espaces sont ouverts et les cheveux gris ou blancs dominent. La directrice du département senior, Maike Mönickes.
Nous voyons ici beaucoup de personnes atteintes de vieillissement précoce par rapport au reste de la population. Nous avons des personnes atteintes de diverses formes de démence, de cancer, des personnes qui ont du mal à se déplacer et qui ont besoin d'un déambulateur.
Comme le reste de la population carcérale vieillit en Allemagne et les seniors ont des besoins spécifiques. À la prison de Zenne, les départements réservés à 87 seniors occupent deux étages accessibles par ascenseur.
Donc deux ascenseurs le long des murs. Il y a une balustrade qui court tout le long du couloir.
Ah, c'est une douche, mais...
Yeah. Donc une salle de bain en fait avec des douches. Dans chaque département de douche, il y a des poignées pour s'accrocher. Un tabouret sur lequel on peut s'asseoir pour se laver.
Le détenu, affecté à la bibliothèque, nous fait visiter sa chambre.
Pendant des années, j'ai été dans une autre prison, fermée. Mais ici, je suis redevenu un être humain.
La réinsertion, c'est le credo de la directrice Kerstin Hultke-Meyerschwick.
Dans une prison fermée, vous ne pouvez pas préparer les gens à la liberté. Une prison fermée, c'est comme d'apprendre à nager hors de l'eau. Pour ça, il faut leur donner petit à petit plus de liberté, aussi en dehors de la prison. C'est de toute façon bien plus sûr pour la société dans son ensemble.
À Zenne, tous les personnels en sont convaincus. Le concept de la prison ouverte a fait ses preuves. À Zenne, le taux d'échec est stable. Entre 0,1 et 0,3% des prisonniers qui ne rentreraient pas à la fin du week-end, par exemple. Reste un défi, la fin de vie en prison et le développement de soins palliatifs sur place pour ceux qui, détenus de longue date, préféreraient finir leur jour dans le seul environnement qu'ils connaissent. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Le ministre français des Armées l'a annoncé hier, des drones français vont être produits par des entreprises françaises en Ukraine, des drones indispensables à Kiev mais aussi à Moscou. Dernier exemple en date, il y a une semaine, l'Ukraine a réalisé un coup d'éclat en attaquant avec des drones des bases aériennes russes. Franck Alexandre.
Une quarantaine d'appareils stratégiques visés à plusieurs milliers de kilomètres de distance. L'opération Toile d'araignée marquera un jalon dans l'utilisation des drones au combat. Près de 4,5 millions de drones en 2025, c'est l'objectif de production ukrainien et il est révélateur de la place dévolue désormais aux munitions téléopérées. Et les Russes ne sont pas en reste puisque les drones iraniens Shahed sont désormais produits en Russie. Les drones sont donc devenus l'arme principale de ce conflit, pointe Philippe Gros de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
C'est un des rares domaines où la BITD des Russes continue de s'étendre. Le reste, ils n'y arrivent plus sur les matériels terrestres, ils n'y arrivent plus, etc. Mais ils font de plus en plus de drones. Et il en faut de plus en plus pour surclasser les défenses aériennes adverses qui s'adaptent, quoi.
Les problématiques de la ligne de front obligent à une constante évolution. On assiste à une véritable course à l'innovation, mais dans le domaine des drones aériens seulement, car les drones terrestres n'ont pas encore fait leur révolution, analyse Vincent Breton en charge du centre de concept et d'expérimentation à l'école militaire à Paris.
Le problème des drones terrestres, en fait, c'est qu'ils sont très handicapés par le terrain sur lequel ils évoluent, souvent défoncés, malaxés par les tirs d'artillerie, etc. Ils se coincent ou ils se retournent. Ces drones terrestres se font assez facilement repérer et donc après, ils sont l'objet d'un ciblage intensif par les drones kamikazes aériens.
Le long de la ligne de front ukrainienne, sur une bande de 60 50 km, tout est brouillé. La résilience est obtenue grâce à l'intelligence artificielle qui permet l'autonomisation de la phase d'impact. Ainsi, sur les drones FPV, les drones pilotés au travers d'un dispositif vidéo, les chances de succès passent de 10% à 80%. Les drones filaires sont aussi une alternative. Côté ukrainien, l'innovation vient du bas, alors qu'elle est beaucoup plus centralisée côté russe, souligne Philippe Gros.
Les Ukrainiens continuent d'avoir un facteur de supériorité sur une grosse part des innovations. Mais pas toutes. Il y a des tas de trucs dans lesquels les Russes innovent aussi. Le schéma le plus courant reste quand même que les Ukrainiens restent les plus innovants et que les Russes suivent, rattrapent. Par rapport aux drones que leur ont livré les Iraniens au départ, les Russes, ils innovent dans le Shahed, c'est sûr, ou dans le Lancet ou autre, etc. Dans les drones longue portée, regardez où en étaient les Ukrainiens il y a 2 ans. Hein. Ils bidouillaient des trucs pour essayer. Et là, maintenant, ils ont atteint la parité avec les Russes.
Les mises à jour des machines et des logiciels embarqués ont lieu plusieurs fois par mois. Prochaine étape attendue, ce sont les drones de défense capables de stopper des raids adverses, ce qui a justement manqué aux Russes pour protéger leurs aérodromes stratégiques.
C'était la chronique Ligne de défense sur RFI avec Franck Alexandre.
C'est dans ta nature.
Elle débute demain à Nice, dans le sud de la France, la conférence des Nations Unies sur l'océan, édition spéciale demain matin. Et on va parler à présent de l'un des fléaux qui touche nos océans, l'acidification de l'eau de mer, Florent Guignard.
C'est une réaction chimique potentiellement mortifère. Trop de CO2 dans l'océan, ce sont des eaux plus acides. Une augmentation de 30% mesurée en 2 siècles. Un phénomène d'ailleurs aggravé par la hausse des températures. Et pour tous les organismes marins, c'est un vrai bouleversement. José Zambonino est scientifique à l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
D'un point de vue métabolique, l'animal va être obligé de faire des efforts plus importants pour pouvoir vivre, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se déplacer éventuellement, pour pouvoir se reproduire.
Cette 7e limite planétaire qui pourrait être bientôt franchie, l'acidification des océans menace directement les animaux calcaires, les coraux, les crustacés ou le plancton à la base de la chaîne alimentaire. Mais les poissons ne sont pas épargnés, comme en témoigne l'étude menée à l'IFREMER sur le bar, une expérience pendant 4 ans et demi de l'éclosion jusqu'à la maturité sexuelle, survenue un mois plus tôt dans une eau plus acide. José Zambonino.
Alors, ça a l'air de rien du tout comme ça, mais sauf que là, on est en train de parler pour les zones tempérées d'un phénomène qui intervient en hiver et éclore un mois avant pour des larves, ça veut dire tout simplement arriver à un moment où il y a beaucoup moins de choses à manger.
Résultat, une mortalité plus importante. Autre phénomène observé, le poisson devient plus vulnérable.
Ce CO2 plus important qui se dissout dans l'eau de mer se dissout aussi dans le sang des poissons. Cela va perturber ses capacités neurosensorielles en particulier. Donc, vous allez avoir un animal qui, au lieu d'être craintif, comme il doit l'être dans un milieu où il y a beaucoup de prédateurs, eh bien, va perdre un peu cette crainte.
Et ce qui n'est plus dans la mer ne sera plus non plus dans notre assiette. On passe à la question de la semaine.
Les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. »
Ben ça fait quoi si les poissons baissent?
Ben ça peut remuer la mer. Une chercheuse espagnole a mis en évidence le rôle très relatif des poissons dans le brassage des océans. Après avoir mesuré en mer des turbulences inhabituelles jusqu'à 100 fois plus fortes que la normale, une vague créée en fait par des poissons, des anchois en train de baisser. Pardon de frayer, c'est comme ça qu'on dit, sachant que les anchois vivent en bancs composés de milliers d'individus. On peut parler de véritable orgie sous-marine. La sexualité de groupe a des effets insoupçonnés.
C'était Florent Guignard.
Vivre ailleurs.
Votre chronique dédiée à l'expatriation, rediffusion ce matin d'une rencontre avec Melissa Medeiros. D'origine portugaise, elle est installée au Québec depuis des dizaines d'années. Elle a créé Via Expat il y a 1 an et demi dans le but d'aider les candidats à l'expatriation au Québec. Elle est au micro de Corinne Mandjou.
Via Expat s'est créée dans une des régions du Québec qui souhaite favoriser le parcours personnel derrière une expatriation, qui souvent est engendré vers le Québec-Canada par un projet professionnel ou un projet de mobilité étudiante. Donc, c'est d'englober l'entité des aspects personnels que les gens vivront, autant au niveau du départ d'un pays, pour arriver par chez nous.
Comment ça fonctionne?
Idéalement, c'est d'être présent dès le début à la préparation en amont. s'assurer que les gens ont bien fait les recherches sur la vie au Québec et au Canada, que ce soit en termes de température, de coût de la vie. Ensuite, on couvre toute la partie logistique d'arrivée, que ce soit l'arrivée aérienne, la recherche de logement et dépendamment d'un projet solo, duo ou familial, bien évidemment, plus il y a d'humains, plus il y a de démarches à effectuer. Donc, on couvre l'entité des besoins familiaux et on ne sous-estime pas non plus le après-arrivée. Donc, on offre un soutien pendant 4 saisons. Ça prend 4 saisons pour bien s'acclimater au Québec.
4 saisons, c'est-à-dire une année, globalement.
Oui, une année complète, mais je précise le mot saison parce qu'en effet, l'hiver québécois est une réalité souvent quand on quitte un pays de l'Amérique du Sud ou africain. C'est vraiment une nouveauté qui va générer des questions et toute une nouvelle adaptation, même si ça fait 8 mois qu'on est arrivé. Quand l'hiver cogne à la porte du Québec, ben on doit s'ajuster à nouveau avec des particularités. Donc, le soutien continue pour vraiment s'assurer d'un enracinement et d'un projet durable.
Quelles sont les régions du monde où vous avez été le plus souvent sollicité pendant cette année?
Ça a été varié au-dessus de 30 pays à travers le monde. La France demeure toujours un pays d'origine très, très populaire, mais aussi beaucoup d'autres pays européens, d'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, bien entendu, et Amérique du Sud, que ce soit le Brésil, la Colombie. C'est beaucoup des talents recherchés vers chez nous là, pour combler la pénurie de main-d'œuvre dans toutes sortes de secteurs.
C'est essentiellement les francophones. Est-ce que vous avez des anglophones qui vous sollicitent?
Oui, il y a des anglophones majoritairement. Ben, nos voisins du Sud, les États-Unis, vont parfois faire une mobilité. Étrangement, il y a quand même beaucoup de Canadiens anglais qui quitteront d'autres provinces canadiennes pour venir au Québec. Ça paraît peut-être banal, mais ce type d'expatriation à l'interne d'un même pays, mais qui est complètement différent. Donc, beaucoup de nos anglophones sont en fait des Canadiens, mais qui proviennent de d'autres provinces.
Qu'est-ce qui vous a motivé pour créer Via Expat?
En fait, c'est vraiment mon expérience terrain. J'ai un parcours assez varié. Là, j'ai fait 10 ans en enseignement de l'anglais langue seconde auparavant, mais j'ai surtout baigné dans l'interculturalité à Montréal avec plein d'autres cultures autour de moi. Je suis portugaise également, donc ça a toujours fait partie de ma vie professionnelle et personnelle. Et veux pas, le Québec et le Canada est une terre d'accueil. En fait, l'immigration représente une grande, grande partie de notre démographie. Donc, c'est un besoin constant qui se doit d'être, je crois, dynamisé aussi avec les années et les mouvements migratoires.
Les personnes qui vous sollicitent sont davantage des familles, des travailleurs ou des étudiants?
Je vous dirais que souvent, ce sont les familles qui ont les plus grands besoins, qui vont chercher vraiment à s'assurer là, que tous les membres seront pris en charge pour qu'ils arrivent et se sentent bien par chez nous.
S'il y a un expatrié ou un candidat à l'expatriation qui souhaite venir au Canada et qui veut vous contacter,
j'encourage bien entendu d'aller visiter le site web viaexpat.com, viaexpats.com. Il y a un formulaire de contact pour ça.
Mélissa Medeiros, fondatrice de Via Expat, au micro de Corinne Manjou. Et comme tous les dimanches matins, un extrait à présent de l'émission L'Atelier des médias. Cette semaine, Steven Jambeau a fait le choix de mettre en lumière une radio afghane, Radio Begoum. Sa spécificité, elle est faite par des femmes afghanes pour les filles et les femmes d'Afghanistan. Alors que les talibans sont revenus au pouvoir à Kaboul en août 2021, la radio continue d'émettre, mais doit s'adapter face à la censure. Écoutez la fondatrice de Radio Begoum, Hamida Aman.
C'est arrivé très assez régulièrement. Par exemple, lorsque notre gynécologue obstétricienne parlait de contraception, ça ne leur plaît pas. Quand elle parlait de menstruation, enfin des règles, parce qu'on fait beaucoup de travail d'éducation, parce que les mères n'expliquent pas à leurs filles les cycles menstruels, etc. Donc, de chaque fois, on se fait ramener à l'ordre. C'est soit le ministère de la Culture et de l'Information qui nous contacte pour nous mettre en garde, soit c'est le ministère des Vices et des Vertus qui nous contacte et qui nous gronde et qui nous ramène à l'ordre.
Et comment on tourne justement ces injonctions?
Nous, par exemple, pour la contraception, on a décidé de continuer à en parler, mais différemment, c'est-à-dire on parlait d'espacement des naissances. Et, ou parfois, ce qu'on faisait, c'est que pendant quelques semaines, on n'en parlait plus. On se faisait dos rond et on le reprenait plus tard parce qu'on, avec l'espoir qu'ils nous écoutent plus, etc. Parce que faut, voilà, c'est des talibans, ils ont pas non plus des moyens énormes. Il faut rester toute la journée à nous écouter et des programmes qui durent une heure et demie. Et puis surtout, souvent, c'est des hommes qui sont derrière, parce que j'ai déjà vu la salle de la censure au ministère de la Culture. Et puis c'est généralement des jeunes gars qui ont collé derrière des ordinateurs avec des casques sur les oreilles pour écouter, nous monitorer. Et je pense qu'au bout d'un moment, ils en ont quand même ras le bol. Je pense qu'ils écoutent 10 minutes. et puis après, ils passent à autre chose.
Amida Aman, fondatrice de la radio afghane Radio Begoum. Vous la retrouvez dans l'atelier des médias tout à l'heure, 11h10, temps universel sur RFI. Et dès maintenant, dans une version longue sur RFI Pure Radio, notre application de réécoute. Bon réveil à tous. Merci évidemment de votre fidélité. Vous restez à l'écoute. Dans quelques secondes, un nouveau journal. Ce sera avec Xavier Besson.